nous reprenons donc aujourd'hui notre étude de quelques personnalités marquantes au cours de l'histoire du christianisme. Il faut sélectionner, nous pourrions autrement y rester plusieurs dizaines d'années au rythme que nous avançons. Donc, nous allons aujourd'hui considérer la première gloire du XVIIe siècle. J'ai prévu que nous abordions, Dieu voulant, en février, un autre grand témoin du XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, Blaise Pascal, dont la nationalité française nous rapproche particulièrement, et au mois de février, donc Dieu voulant, John Bunyan, dont la qualité de baptiste nous rapproche aussi particulièrement. Nous allons prier ensemble pour demander au Seigneur de nous conduire, de nous donner de bien user du temps qu'il nous accorde maintenant. Mais je lis d'abord deux versets qui me semblent très bien correspondre à ce qu'a découvert Blaise Pascal. C'est dans l'Épître aux Colossiens que l'apôtre Paul parle du grand combat qu'il soutient pour les chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ par son intermédiaire, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je pense qu'on peut dire que c'est de ces trésors que Blaise Pascal est devenu conscient. C'est à lui que les choses ont été révélées, mais qu'il s'en fait aussi le transmetteur à notre avantage. Nous sommes heureux de revoir parmi nous notre frère Jacques Richard. Est-ce qu'il pourrait nous conduire dans la prière?
C'est une grâce, Seigneur, de nous retrouver ensemble autour de toi, parce que c'est toi le personnage principal dans notre vie et dans l'histoire du monde. Nous te remercions, Seigneur, aussi pour Pascal, pour tout ce que cet homme nous a apporté par sa piété, sa compréhension de ton œuvre de grâce, par la manière dont il a vécu en mettant à ton service tous les dons que tu lui as faits. Merci Seigneur pour tout cela. Aide-nous à en faire notre profit, à savoir nous nourrir de ce que nos prédécesseurs ont accumulé tout au long de leur vie. Nous te prions, Seigneur, d'être avec Henri dans ce qu'il exposera de la pensée de Pascal. Merci, parce que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière, c'est-à-dire dans notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire. Amen.
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 Pascal, Blaise Pascal, il y a quelques années, j'avais dû rédiger un texte pour préparer une grande campagne d'évangélisation et je devais préciser quels étaient les traits spécifiques du témoignage de l'évangélisation tel que nous avons à en user à l'égard de nos concitoyens, de nos compatriotes et tout spécialement de ceux qui ont été formé par la culture française. Et je concluais en disant que mon expérience, c'était que chaque fois j'étais ramené à Pascal. Chaque fois c'est à Pascal que je devais faire référence. Et j'ai noté dans un magazine les mots que prononçait un philosophe assez connu du temps présent. Je pense que c'est un des trois ou quatre philosophes les plus révérés et connus vivant actuellement en France. André Comte Sponville, qui a écrit plusieurs livres avec un assez grand retentissement dans le public. Voici ce qu'il disait de Pascal. C'est pour moi le plus grand génie français. Je me définirais volontiers comme un pascalien athée. Au fond, tous les livres que j'ai écrits, c'était pour échapper à Pascal. Un tel témoignage, plutôt d'un athée, oui, montre assez quelle est la puissance du message que Pascal a pu apporter. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il ait été à nouveau accroché par le témoignage de Pascal. Je crois qu'André Comte-Sponville poursuit sur sa voie, mais il a rendu là un hommage quand même très remarquable qui nous pousse, me semble-t-il, à le sélectionner dans notre galerie de grandes figures et à passer donc aujourd'hui un bout de temps à considérer quelle fut sa vie et quelle fut son œuvre. Alors, je compte répartir la matière de la manière suivante, où je vous dis mes sous-titres pour que vous voyez de quelle façon j'articule les choses. D'abord, donc, l'homme et ses combats, l'élément biographique. Ensuite, premier grand thème, la primauté du cœur. C'est en retournant une formule bien connue de lui, Dieu sensible au cœur, que j'ai choisi comme sous-titre, le cœur sensible à Dieu, pour caractériser Pascal. Puis, une section qui concernera donc, le message concernant Dieu lui-même dans l'œuvre de Pascal, le Dieu caché, révélé. Et parce que je ne pourrais pas tout dire, parler de tous les aspects de l'œuvre de Pascal, je sélectionne cet aspect-là. Et puis, en dernière partie, j'aimerais que nous puissions discerner ce qui pour nous est à retenir et ce qui pour nous n'a pas la même valeur, Pascal et la foi évangélique, au sens précis du terme que nous employons. Donc d'abord, l'homme et ses combats. Pascal a une de ses réflexions sur la qualité de certains livres. Il dit, on croyait trouver un auteur et on rencontre un homme. À coup sûr, dans l'œuvre de Pascal, on rencontre un homme. Et on ne peut pas s'intéresser à ses idées sans savoir quelque chose de l'itinéraire qu'il a suivi de sa vie. Une courte vie, puisqu'il est mort avant 40 ans, dont les péripéties sont liées à des réalités historiques importantes qu'il faut que je mentionne pour que la suite soit bien compréhensible. Il est l'homme du XVIIe siècle, et on peut pas le déraciner de son siècle. Le XVIIe siècle est le siècle de la révolution scientifique. Il commence en mathématiques et il y prend part, car c'est un grand génie de l'histoire des mathématiques. Les choses ont commencé sans doute au XVIe, le virage est pris avec la Renaissance et quelqu'un, Léonard de Vinci, mais c'est encore assez balbutiant au XVIe. Les progrès tout à fait décisifs, déterminants, c'est au XVIIe siècle qu'ils se produisent, alors ça va se prolonger dans les siècles suivants, mais le moment de la naissance de la science moderne, on pourrait dire après un siècle de gestation, c'est le XVIIe. Et Pascal fait partie de cette révolution, comme mathématicien, comme physicien aussi. C'est le siècle de Galilée, le XVIIe. C'est le siècle de Torricelli qui avait compris pourquoi le baromètre, le mercure dans le baromètre, avec une poche de vide d'un côté, monte à un certain moment. Mais il n'avait pas pu expliquer pourquoi. Il n'avait pas pu démontrer pourquoi. Et c'est Pascal, avec son beau-frère, qui l'a démontré par sa fameuse expérience du Puy de Dôme. Donc c'est vous dire qu'il a aussi participé de manière sensible au progrès de la physique. Le XVIIe siècle en France, c'est aussi le moment de la diffusion du jansénisme et de sa persécution violente, qui n'a sans doute pas été aussi sanglante que la persécution des calvinistes, des réformés, des chrétiens évangéliques, mais qui a été sans doute aussi dure, aussi entêtée de la part du pouvoir royal. Ça a vraiment été d'une injustice flagrante, ça a été extrêmement pénible pour ce jansénisme. Alors qu'est-ce que le jansénisme ? Le mot vient du nom d'un évêque théologien belge, évêque qui a terminé, il était professeur de théologie d'abord à Louvain, et puis il a terminé évêque d'Ypres, qui a écrit un très très gros volume sur saint Augustin, l'Augustinus, où il reprenait les doctrines de saint Augustin sur la grâce, où il exaltait la souveraineté de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi, c'est Dieu qui justifie de manière gratuite, c'est Dieu dont la souveraineté s'exerce dans l'élection. C'est lui qui a prédestiné ceux qui doivent hériter du salut dès avant la fondation du monde. Ces doctrines que saint Augustin avait fait prévaloir en son temps contre certains légateurs, et il l'avait fait appuyer sur l'autorité biblique, avaient été passablement édulcorées au long du Moyen-Âge, en tout cas dans la piété populaire. Elles étaient battues en brèche tout spécialement par le nouvel ordre religieux fondé au XVIe siècle, très dynamique, qui réussissait à s'arroger presque un monopole sur l'éducation, l'ordre des Jésuites, la compagnie de Jésus, comme on dit en traduction française, en latin c'est la societas, la société de Jésus. Les Jésuites, très modernes, mettaient l'accent sur le libre arbitre de l'individu. Et c'est donc contre la tendance des Jésuites, tendance qui allait dans le sens de l'esprit de la Renaissance, de l'esprit de la modernité, que l'Augustinus de Jansenius a été perçu. Et ça a été un combat extrêmement violent en France entre les jésuites d'une part et les jansénistes d'autre part. Jansenius a eu des disciples en France, importants, doués, et les jésuites avec la Sorbonne pour allier, la Sorbonne toujours un peu encroûtée à l'époque dans ses traditions, bien que le chef du parti janséniste Arnaud était docteur en Sorbonne, bien que donc il y ait eu ce lien, la Sorbonne s'est mise plutôt dans le camp anti-janséniste, et surtout le confesseur du roi Louis XIV était jésuite, et c'est de cette façon qu'il a obtenu une persécution vraiment très très lourde des jansénistes. Or, nous allons le voir très, très rapidement dans l'esquisse de la vie de Pascal. Pascal s'est lié au jansénisme. Il a été avocat du jansénisme. Alors, il était tellement puissamment original lui-même qu'on ne peut pas simplement le ranger dans la catégorie janséniste. Il a rajouté, je dirais quoi, au jansénisme, mais il a professé les points déterminants de la croyance janséniste, qui était bien celle de saint Augustin. Alors il est vrai que, vous savez, les mêmes mots, la même proclamation peut avoir une résonance très différente selon la salle où vous parlez. Et je pense qu'on peut dire que les mêmes thèses dans la bouche d'Augustin au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, au début du Ve siècle, et au XVIIe siècle, ça n'a pas la même résonance. C'est vrai. Et reprendre les thèses d'Augustin au XVIIe siècle, c'était aller contre le mouvement de la culture. C'était donc beaucoup plus dur, ça avait une autre coloration. Donc, en adoptant le parti janséniste, Pascal s'est placé en quelque sorte comme un obstacle dans le mouvement courant des idées. Et puis, entre ces deux courants, peut-être, il y a le parti qu'on appelait libertin, mais pas au sens que le mot a pris aujourd'hui, qui concerne essentiellement les mœurs. Le parti libertin, c'était le parti de la libre pensée, qui avait été très très marqué par les écrits de Montaigne au XVIe siècle. C'est un parti qui, clandestinement, parce qu'il risquait la persécution autrement, il risquait la prison, mais clandestinement avait réussi quand même à se diffuser assez largement parmi les intellectuels français, dans l'élite française, par les vases paysannes, hein, mais qui en prenait et en laissait avec le dogme reçu. Alors, le dogme reçu, c'est le dogme catholique, essentiellement. Mais c'était finalement les fondements même du christianisme qui étaient remis en cause par ces libertins, ces libres penseurs qui n'osaient pas trop le dire, mais ça circulait dans les salons, ça. Comme nous allons le voir, Pascal a subi une influence assez forte de Montaigne et du parti libertin, mais en même temps, il s'est dressé contre lui avec l'espoir d'arracher à cette libre pensée un certain nombre de ses anciens compagnons. Donc son œuvre est en grande partie une œuvre qui cherche à contrer la diffusion de la libre pensée, qui représentait un certain scepticisme par rapport à la foi chrétienne. Alors, Descartes, mentionnons encore cela, Descartes avait lui aussi écrit pour contrer ce parti libertin. Et c'est un cardinal, enfin il était nommé cardinal, ou créé cardinal peu avant sa mort, fondateur de l'ordre de l'oratoire, d'ordre catholique en France, qui avait fait à Descartes le devoir de publier le discours de la méthode et ses méditations. Mais Descartes l'avait fait selon sa méthode à la fois moderne et rigoureuse, sans l'implication personnelle très chaleureuse. C'était au nom de la raison, du bon sens comme la chose la mieux partagée du monde que Descartes avait écrit. Et Pascal va à la fois œuvrer comme Descartes, dont il accepte un certain nombre de thèses, et contre Descartes, dont il trouve qu'il reste finalement très peu croyant dans sa manière de défendre le christianisme. Donc vous avez au moins ces trois grandes tendances à l'œuvre dans la société française du XVIIe siècle, et la France, là, c'est le pays en vedette en Europe. Le XVIIe siècle, c'est le siècle français. Et avec c'est l'âge d'or, c'est Louis XIV, etc. Donc, ces trois courants déterminent le sens de ce qu'a vécu et finalement réalisé Blaise Pascal. Alors, je rappelle sa biographie. C'est d'abord l'enfant prodige. Son père qui. Donc lui, Montaigne veut l'éduquer selon les principes éducatifs de Montaigne, pas de bourrage de crâne, surtout pas, et il ne veut pas qu'il fasse de maths. Et à 12 ans, tout à coup, il s'aperçoit que dans ses jeux, le jeune Blaise a redécouvert tous les débuts des mathématiques. Toute la théorie des mathématiques que Euclide, dans l'Antiquité, avait mise au point jusqu'à la 32e proposition d'Euclide. Et à 16 ans, parce que son père lui a permis de faire des maths, à 16 ans, il publie un traité sur certaines courbes géométriques qui font l'admiration de tous les mathématiciens de l'époque. L'enfant prodige. Il faut noter d'ailleurs que sa sœur aussi était une enfant prodige. En poésie, etc. Sa sœur Jacqueline était même dans leur enfance plus fameuse que lui, reçue à la cour, elle éblouissait. C'était une famille extrêmement douée. Dans sa jeunesse, son père a eu des ennuis avec l'administration royale, on était en faveur, on n'était pas en faveur, hein. Et donc il se retrouve un peu relégué disons dans une place de sanction à Rouen, mais quand même, après très bref exil, il a quand même été réintégré dans la fonction publique, il est commissaire à l'impôt, et il se retrouve à Rouen, et à Rouen, il y a un premier contact, parce que le père se casse la jambe, il y a des gens qui viennent le soigner, et ce sont les premiers jansénistes. Premier contact avec le jansénisme, et le jeune Blaise s'enthousiasme pour la doctrine qu'il représente. Alors, on parle parfois de la première conversion de Pascal, mais ce n'est pas encore très, très profond. La famille peut revenir à Paris, et là, il y a toute une période où il brille dans les salons, où il a des amis de toutes sortes, et justement beaucoup parmi les libertins, parmi ces libres penseurs. Cette période initiale, où il continue à faire des maths et des recherches scientifiques, se termine avec un moment tout à fait décisif, sa conversion. Là, la vraie conversion. La nuit de feu. Il a été sérieusement secoué par d'autres éléments. Il y a eu un épisode en particulier. Alors qu'il traverse en carrosse, en calèche, un des ponts sur la Seine qui existait à l'époque, les chevaux s'emballent et le véhicule a presque plongé. Et ça aurait été extrêmement dangereux. Il a vu la mort le frôler à ce moment-là. Alors ça l'a vivement secoué à ce moment de sa vie. Il y a aussi que sa sœur Jacqueline est entrée dans le monastère, si vous l'appelez comme ça, des jansénistes, Port-Royal. Et il est donc travaillé à certains moments, et puis un jour déterminé, l'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologes, veille de Saint Chrysostome, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum. Ça veut dire mon Dieu et votre Dieu. C'est la parole de Jésus quand il se montre à Marie-Madeleine. Mon Dieu et votre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Je m'en suis séparé. De reliquerunt me fontem aquae vivae, c'est-à-dire ils m'ont abandonné, moi, la fontaine d'eau vive, c'est le verset de Jérémie. Mon Dieu, me quitterez-vous que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Je lis ce qu'on appelle le mémorial de cette nuit-là, c'est lui qui l'a écrit et qui l'a mis sur un parchemin et qui l'a cousu même dans ses pourpoints pour l'avoir toujours avec lui, le souvenir de cette nuit de feu, de cette conversion. Alors, cette conversion, tout est changé pour lui. C'est fini, la vie est dissipée. Il a pu mener. Il fait retraite à Port-Royal, parmi les jansénistes. Et il va épouser leur cause. La persécution a commencé. Et la première chose qu'il a faite significative pour soutenir donc, le jansénisme, parce qu'il reconnaît vraiment la parole de Dieu dans les écrits de saint Augustin, c'est d'écrire un certain nombre de brochures anti-jésuites qui ont eu un effet prodigieux sur la vie culturelle. Il les écrit sous un pseudonyme, comme les lettres d'un provincial à ses amis, où il raconte ce qui se passe à Paris. Et il a publié ça. On les appelle les provinciales, ces brochures. Il a bien potassé les manuels jésuites et il les tourne en ridicule avec une habileté prodigieuse. Il montre à quel point il s'oppose à saint Augustin, qui était reconnu quand même comme le plus grand des pères de l'Église. Et donc, ces provinciales, dont on ne savait pas d'auteur au départ, ont eu un effet très considérable sur l'opinion publique. Et il y en a eu toute une série pendant environ un an et demi, je ne vérifie pas les dates là maintenant. Pascal y révèle l'éclat de son style, l'habileté qu'il a dans le maniement de la plume. Ce n'est pas seulement un matheux, c'est aussi un auteur, un écrivain au style comparable. Et donc la persécution se durcit, la guerre religieuse à l'intérieur du catholicisme se poursuit, et il y a un élément qui va beaucoup compter pour Pascal, une guérison miraculeuse de sa nièce à Port-Royal. Sa nièce est à Port-Royal et elle souffre d'un ulcère lacrymal qui vraiment la défigurait tout entière. C'était un truc, les médecins y avaient travaillé, personne n'avait réussi à améliorer la situation. Elle était complètement défigurée, c'était un abcès purulent autour de l'œil. Et voilà que lors d'un office à Port-Royal, on promène une relique, la sainte épine, prétendument, donc une des épines de la couronne d'épines portée par Jésus lors de sa crucifixion. Et voilà que cette épine touche son visage et elle a été guérie miraculeusement. Ça fait un très grand bruit à Paris, les docteurs les plus fameux de Paris, le médecin royal, etc., sont venus inspecter, ils l'avaient vu avant, c'était un miracle vraiment prodigieux. Moi, je ne me rendais pas compte avant d'avoir lu l'histoire, l'abrégé de l'histoire de Port-Royal par Racine. Racine, le grand Racine, dramaturge, avait été élevé comme enfant à Port-Royal, dans les écoles associées à Port-Royal. Et il a écrit clandestinement, parce qu'il, de nouveau, il risquait la prison, il risquait presque sa peau. Il a écrit clandestinement un abrégé de l'histoire de Port-Royal vers la fin de sa vie. Dans la dernière partie du règne de Louis XIV. Et ce texte, on l'a. En visitant Port-Royal, j'ai acheté ce petit livre. C'est passionnant à lire. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, ce miracle avait été un miracle exceptionnel. Alors, à Port-Royal, un miracle pareil, alors qu'il avait lancé ses provinciales qui déchaînaient contre le parti janséniste, l'autorité royale, l'archevêque de Paris et tous les jésuites, c'était un signe du Seigneur qui approuvait son combat. Quelques années ont passé et sa santé a continué de se détériorer. Il a eu une mauvaise santé pratiquement dès qu'il a atteint l'âge adulte, des migraines terribles. Il devait avoir un fonctionnement cérébral tout à fait anormal. Son génie allait avec sans doute une sorte de surexcitation de toute l'électricité, tout le système électrique des neurones. Et donc il a souffert vraiment très, très sérieusement pendant toutes les dernières années de sa vie, ne pouvant plus faire grand-chose en public. mais avec des gens qui venaient le voir, et tout un cercle qui se réunissait quand même autour de lui, avec certains travaux de mathématiques, il a continué quand même à faire des maths, vous savez. J'avais aussi un camarade, quand j'étais dans le secondaire, qui, lorsqu'il avait une rage de dents, faisait des maths. Hein. Vous avez des matheux que... Alors, il a continué à faire des maths. Il a même lancé un défi à tous les mathématiciens européens, et puis il y a un problème à résoudre, mais c'est lui qui l'a résolu. Donc, pendant cette période même. Mais surtout, il a consacré ses forces à l'élaboration d'un ouvrage essentiellement à destination des libres penseurs, des libertins qu'il avait côtoyés auparavant. Une apologie de la raison de la foi chrétienne. Une apologie, ça veut dire donc un discours qu'on dit apologétique, qui essaye de persuader ceux qui ne sont pas dans la foi d'y adhérer. Il méditait donc un livre, et il a rédigé des notes et des notes et des notes, des liasses de papier, en vue de la rédaction de ce livre. Finalement, il n'a jamais pu l'écrire. Il est mort avant. Encore si jeune, comme je vous l'ai dit. Et ce sont les notes qu'il a laissées en vue de la rédaction de cette apologie qui ont été publiées sous le titre « Les pensées ». Livre le plus fameux, le livre le plus influent de Pascal. Les pensées de Pascal, ce sont des notes. Alors, il y a un commentateur, d'ailleurs un auteur marxiste, Lucien Goldman, qui a soutenu une thèse en Sorbonne, où il dit que finalement, c'est cette forme-là qui convient au génie théologico-philosophique de Pascal. Au fond, s'il n'a pas terminé, c'est tant mieux, parce que il n'est pas un esprit systématique. Cette forme des pensées, donc de petites sections, alors parfois plusieurs pages quand même, mais parfois juste une ligne ou deux, cette forme-là convient très bien à la communication de sa pensée avec tous ses traits spécifiques. C'est possible, on peut plaider de cette façon. En tout cas, c'est ce que nous avons, avec un problème qui a été un problème impossible à résoudre à la satisfaction de tous. Dans quel ordre publier ces bouts de papier, ces liasses, tous ces éléments de brouillon? Et il y a plusieurs systèmes où les pensées sont numérotées avec des numéros différents. Ça, c'est assez ennuyeux. Et il y en a encore de nouveaux qui ont été proposés au XXe siècle. Au XXIe, j'en ai entendu parler, mais au XXe siècle. Les deux plus fréquents sans doute, mais il y en a d'autres aussi importants, sont ceux de Léon Braunschweig et celui de Louis Lafuma, mais il y a aussi des retouches à celui de Lafuma dans celui de Le Guerne, les éditions des pensées qui sont disponibles, les éditions de poche aujourd'hui, etc., sont soit selon l'un des systèmes, soit selon l'autre. C'est un peu agaçant, mais c'est la situation. Voilà comment s'est déroulée la vie de Pascal. Il est mort, on pourrait dire, en odeur de sainteté pour le cercle de ses amis. Il voulait mourir dans l'hospice des pauvres, c'est-à-dire dans une misère, dans une pourriture terrible. Alors, quand même, ses amis ont réussi à le garder à la maison. Les jésuites ont fait courir un bruit selon lequel il serait revenu à la position officielle de l'Église catholique de l'époque, dans ces derniers moments, mais je crois qu'il a été démontré que tel n'était pas le cas, que maintenant tout le monde est d'accord que non, il n'avait pas, renié son combat qu'il lui avait fait écrire, ça fait partie hein, des papiers qui sont restés de lui. Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné au ciel. Parce que Rome, avec le Louis XIV et les jésuites, avait pris position contre le jansénisme. Voilà pour la vie de Pascal. Le message. Je pense que le thème du cœur ressort si souvent dans les pensées de Pascal, avec la formule « Dieu sensible au cœur » que j'ai déjà citée tout à l'heure, mais aussi la formule « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » et beaucoup d'autres, que je pense bien de concentrer d'abord notre attention sur ce thème du cœur. Il me semble qu'on peut dire que c'est chaque fois l'accent sur le cœur qui fait différer Pascal des grands courants que j'ai évoqués au début. C'est le cœur qu'il va invoquer contre la libre pensée, le cœur qui permet des certitudes inébranlables, certitude, 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 nous l'avons lu dans le mémorial, Dieu sensible au cœur permet d'être certain. Voilà ce qui s'oppose à ce scepticisme. Montaigne avait dit « Que sais-je ? » Eh bien, il répond « Nous ne pouvons pas prétendre ignorer certaines choses. » Et par exemple, c'est le cœur qui sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux. Même pour l'espace euclidien, il se réfère au cœur, contre le scepticisme inspiré par Montaigne. Donc, c'est le cœur. Mais c'est aussi le cœur contre le rationalisme de Descartes. Car il va différencier le cœur et la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Voyez ? Donc, par rapport à Descartes, c'est aussi le cœur qui fait la différence. Et la révolution scientifique, en gros, qui a misé sur le progrès de la raison. Et puis, c'est aussi le cœur, à mon avis, qui fait la différence entre le jansénisme et lui. Alors, il a été janséniste, mais janséniste plus, janséniste original, il a été Pascal. Le jansénisme, dans sa prédication de la souveraine élection divine, présente la prédestination comme un secret complètement caché de Dieu. On ne peut pas savoir si on est élu ou si on n'est pas élu. Et on peut faire tous ses efforts, ça ne change rien. Le jansénisme a tiré de Saint-Augustin ce thème de la souveraineté, de la grâce de Dieu et de l'apôtre Paul. Hein. Il se réfère à la Bible en même temps. La différence avec la réforme et Calvin, c'est qu'il n'y a pas la parole de la promesse à laquelle nous nous attachons par la foi et qui fait que nous ne devons pas jeter nos yeux dans l'abîme des spéculations sur l'élection divine. Ça, c'est un abîme très dangereux, disent les réformateurs. Nous devons nous attacher à la parole. Et la foi s'attache à la parole et du coup à la certitude. C'est ce que la réforme a souligné davantage qu'Augustin, et que le jansénisme n'a pas, parce qu'il est catholique. Et alors, Pascal, il y a déjà un retour à la parole. Mais en même temps, je vais le dire, il ne se veut pas calviniste, et la parole n'a quand même pas le rôle qu'il a dans la réforme dont nous sommes héritiers. Mais c'est remplacé chez lui par l'expérience du cœur. Cette expérience qu'il a faite lors de la nuit de feu, voilà qui lui ouvre une certitude que les jansénistes en général n'avaient pas. Il glorifiait le secret de la prédestination, mais du coup, alors que Pascal, lui, il sait, parce que son cœur a senti Dieu, qu'il n'a pas à redouter d'être parmi les réprouvés, que Dieu, en effet, l'a choisi. Voyez. Donc, c'est le cœur qui fait aussi, me semble-t-il, la différence par rapport au jansénisme. Alors, qu'est-ce qu'est le cœur ? Il ne le définit nulle part. Et je pense que ce n'est pas si difficile, si facile de définir. C'est un complexe. Alors, ce n'est pas le cœur au sens du courrier du cœur. Ce n'est pas le cœur simplement affectif. Ce n'est pas non plus le cœur sur la main, au sens simplement d'une bonté empathique. Ce n'est pas non plus le sens du courage, qui est un sens courant du mot au XVIIe siècle. Rodrigue a-t-il du cœur ? Ça veut dire Donc, tu décourages, ce n'est pas non plus ce sens-là. Et ce n'est pas non plus le sens du cœur dans la Bible. Quoique, il y a une petite différence au moins. Le cœur dans la Bible, c'est l'organe de la pensée. C'est le siège de la raison. Et vous avez une traduction du mot couramment traduit cœur dans l'Ancien Testament. Le mot intelligence, dans les citations de Jérémie par l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au chapitre 10, le mot cœur est traduit intelligence, le mot grec courant pour intelligence. C'est le siège de l'intelligence, je crois qu'on peut très, très bien le montrer dans l'Écriture, comme de la volonté aussi, c'est le centre, mais avec la fonction d'intelligence mise en vedette. Or, Pascal, lui, va opposer à la raison. Donc, ce n'est pas non plus tout à fait le sens biblique. Bon, il y a un commentateur, livre, qui dit, bon, au fond, c'est l'intuition. Bon, il y a peut-être cet élément-là. L'intuition intellectuelle, comme la raison, finalement, repose toujours sur une certaine intuition. Sans doute pas faux, mais ce n'est pas vraiment cela. Il y a l'intuition, mais il y a aussi l'idée d'une une sorte de citadelle intime de l'être humain. C'est la personne en son corps, comme nous disons. Et il y a la volonté. C'est aussi l'organe de la volonté. Donc il y a un élément affectif, un élément d'intuition, un élément de volonté. C'est le siège de la charité d'amour qui va s'opposer donc à ce que la raison peut admettre. Et vous avez un passage tout à fait magnifique sur les trois ordres que je veux vous lire, parce que c'est un de mes passages préférés. Il y a, dit-il, trois ordres dans la réalité. L'ordre du corps, hein, l'ordre simplement biologique des corps. Il y a l'ordre qu'il appelle de l'esprit, mais il veut dire de la raison, des fonctions qui s'exercent dans la recherche scientifique, dans le travail mathématique, etc. Ça, c'est l'ordre de l'esprit. Et il y a l'ordre du cœur qui est au-dessus et qui est caractérisé par la charité. Et chacun des ordres inférieurs ne vaut pratiquement rien par rapport à l'ordre supérieur. Il expose cela dans un texte que je vais vous lire. Parce que la distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Entre le corps et l'esprit, il y a une très grande distance, mais encore plus entre la raison et l'amour tel que Dieu le révèle et le dispense. Tout l'éclat des grandeurs d'un point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. Éclat des grandeurs corporelles. La grandeur des gens d'esprit est invisible au roi, au riche, au capitaine, à tous ces grands de chair. Mais d'un autre ordre. La grandeur de la sagesse, qui est nulle, sinon de Dieu, la sagesse rationnelle, est invisible aux gens charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire et leur lustre. Et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles, où ils n'ont pas de rapport. Ils sont vus dans des yeux, mais des esprits, c'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles, le spirituel au sens rationnel, où elles n'ont nul rapport, car elles n'y ajoutent ni ôte. Ils sont vus de Dieu et des anges, et dans des corps, ni des esprits curieux, Dieu leur suffit. Archimède, grand inventeur, le principe d'Archimède, Archimède sans éclat, c'est le type du savant rationnel, sans éclat, serait en même vénération. Il n'a pas donné des batailles pour les yeux, mais il a fourni à tous les esprits ses inventions. Oh, qu'il a éclaté aux esprits. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention. Il n'a point rié. Mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible démon, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur, et qui voit la sagesse, la vraie sagesse de Dieu. Il eût été inutile à Archimède de faire le prince dans ses livres de géométrie, quoiqu'il le fût. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté, devenir en roi, mais il y est bienvenu avec l'éclat de son ordre. Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même ordre, duquel est la grandeur qu'il venait faire paraître. Qu'on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l'élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrection, et dans le reste, on la verra si grande qu'on n'aura pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y est pas. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y en avait pas de spirituel rationnel, et d'autres qui n'admirent que les spirituels, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus haute dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre, les royaumes, ne valent pas le moindre des esprits. Car il connaît tout cela, et soi. Et les corps, rien. Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toute leur production, ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel. J'espère vous avoir donné envie de dire davantage de Pascal. Quelle magnificence! Deuxième grand thème, peut-être que je résume parce que je vois là aussi, le Dieu caché révélé. Le Dieu sensible au cœur, il l'appelle très souvent le Dieu caché. Il reprend la formule hors de son contexte d'ailleurs, d'Ésaïe 45, 15. Tu es un Dieu qui se cache, ô Éternel. Alors, chez lui, c'est complexe. Dieu se cache en se révélant. C'est un mélange, on a appelé son génie un génie du clair-obscur à ce propos. Et Dieu se cache jusqu'à un certain point dans sa révélation même, car il se révèle par des figures qu'il faut réussir à interpréter, qu'il faut bien comprendre. Donc Dieu est à la fois caché et révélé. Il y a des preuves rationnelles de Dieu, les preuves de l'existence de Dieu que mes prédécesseurs avaient mises au point. Ils ne les rejettent pas totalement, mais elles sont de peu d'utilité. Quand bien même on persuade quelqu'un, l'heure d'après, il a oublié. Donc, les preuves pour lui, ce sont les prophéties. Il dit, les prophéties sont la plus grande preuve de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, attestée par des témoins dignes de foi, et l'action de Dieu aujourd'hui, les signes qu'il donne, en particulier, il pense au miracle de la Sainte Épine, dont il a bénéficié. Ce mélange, c'est là-dessus qu'il insiste, il permet deux choses. Il permet à la liberté de choix de jouer. La liberté de choix humaine, il y a assez de lumière pour que ceux qui veulent croire puissent croire. Il y a assez d'obscurité pour que ceux qui ne veulent pas croire puissent ne pas croire. Responsabilité de chacun. Et liberté du choix divin. C'est aussi en jouant sur ce mélange que Dieu amène les prédestinés à la lumière et à la foi. Et Dieu aveugle aussi qu'il veut, et endurcit qu'il veut, le message de Romanov sur la souveraineté du choix de Dieu. Vous voyez comment cela joue avec ce mélange dans la révélation divine. Et c'est en rapport avec cette nécessité d'un engagement du vouloir qu'il développe son argument du pari. Son argument du pari, ce n'est pas son dernier mot. Et au contraire, dans la page même des pensées où il le développe, il arrive à la certitude par l'expérience que le cœur fait de Dieu. Mais, oui, il est prêt à dire avec les libertins, oui, on ne peut rien prouver. Quand on considère les choses, il y a un mélange, il y a des choses qui semblent aller dans le sens de Dieu et d'autres non. Mais il vous faut parier intelligemment. Vous êtes remarqué, vous ne pouvez pas ne pas parier. Est-ce qu'il y a un Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Et lui, qui a été un pionnier du calcul des probabilités, il applique cela. Lorsque vous prenez un billet à la loterie, il est rationnel de le faire si vous risquez de gagner plus que le billet ne vous coûte. Et au contraire, il n'est pas rationnel de jouer à la loterie si la chance de gagner est inférieure au prix du billet, ce qui est le cas, hein, avec toutes les loteries que l'on propose. Avec Dieu, quelles sont les chances de gagner? Elles sont infinies! Donc, même s'il y avait une chance sur 1 milliard seulement qu'il y ait un Dieu, par rapport à la perte qui est finie, oui, vous devez renoncer à certaines choses, du tout. Par rapport à ce que vous pouvez gagner, c'est l'infini. L'infini divisé par 1 milliard, c'est encore l'infini. Donc, la seule attitude rationnelle, c'est de parier pour Dieu. Alors, il veut réveiller les libertins par cet argument. C'est pas son dernier mot sur la certitude. Mais voilà le sens du fameux pari pascalien. Et alors, la certitude, il l'obtient, donc, par le moyen de ses prophéties, de la résurrection de Jésus-Christ, et c'est un christianisme très christocentrique qu'il développe. Alors, cela dit, rapport à nous, ce que nous pouvons retirer. Je crois que nous pouvons reconnaître une vraie conversion dans ce qu'il a vécu. La saveur très biblique de sa piété et l'utilité de ses arguments d'apologète qu'on trouve dans les pensées, elles nous font du bien. La démolition du rationalisme, qui utilise les arguments de Montaigne d'ailleurs, mais la force de son insistance sur le témoignage scripturaire. Il a appris les points pour pouvoir bien étudier les prophéties. Donc tout cela va vraiment dans le sens que nous pouvons faire nôtre. Mais il est resté catholique, on ne peut pas l'ignorer. Et dans la conjoncture, il faut dire qu'il ne pouvait guère faire autrement. Le parti janséniste a été attaqué comme crypto-protestant. On les accusait de calvinisme, et c'est le temps de la révocation de Nantes, etc. Pour eux, c'était alors la persécution encore plus ouverte et sanglante. Alors, ils protestaient qu'ils n'étaient pas protestants du tout. Et c'est le cas de Pascal aussi. Je crois qu'il n'a pas bien compris non plus Thierry Calvin, mais dans sa situation, il fallait qu'il apparaisse catholique au maximum. C'est le cas aussi des religions de Port-Royal. Sur la messe, elles sont d'une piété hyper catholique. Et c'est ce que Racine, d'ailleurs, montre bien en protestant contre la persécution qu'elles ont subie en tant que voisine de l'hérésie. Et ça a différents aspects. Pascal portait une ceinture avec des pointes pour être constamment dans la douleur de cet ascétisme. Il se mettait pour mater la chair, une ceinture qui lui déchirait la peau. C'est typiquement catholique, de l'époque, hein, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un présent dans le catholicisme. Mais c'était là un catholicisme typique. Et Pascal en a été participant, avec une idée d'une certaine valeur méritoire d'union à Christ, de la souffrance comme telle. Donc, nous ne pouvons pas ignorer non plus. Et par la médiation de l'Église, il a parlé contre le pouvoir du pape, mais en même temps, il n'a pas remis en question quand même son autorité de chef de l'Église. Et il était certainement gallican, refusant l'infaillibilité au pape, mais reconnaissant son autorité. Donc, il est resté catholique, Et sa notion de cœur lui a peut-être permis de le faire, en tout cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout à fait la notion biblique. En opposant le cœur et la raison comme il le fait, il a un thème qui n'est pas du tout dans l'Écriture. L'Écriture oppose la raison selon Dieu, renouvelée dans son orientation par Dieu, et la raison selon le monde, l'intelligence des sages de ce siècle, et pas du tout raison et cœur, pas du tout. Et cela revient à laisser en quelque sorte la raison à l'adversaire. Le champ de la raison à l'impiété ou l'incrédulité jusqu'à un certain point. Donc, pour ma part, je dis Pascal éternellement enrichissant. Pascal, un frère dont la lecture me fait du bien, mais en même temps, ce n'est pas un guide théologique à suivre entièrement. Voilà ce que je vous propose donc sur Blaise Pascal, Chateaubriand a désigné comme un effrayant génie. Un génie si tellement supérieur, mais c'est effrayant.